Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Salut François.
Salut.
Tu es à Barnavaux Artistes, tu es un artiste et tu es barnavois.
Alors, je suis barnavois d'occasion, si on peut dire, parce que j'y suis pas toujours. Mais je suis à Barnave, c'est un peu un hasard. On est arrivé là parce qu'on cherchait un endroit agréable où se poser. Et il y en a beaucoup, et puis s'est trouvé qu'on a trouvé cette maison, et voilà, on s'est arrêté sur cette maison.
Mais c'était pas un coup de cœur, quoi.
Si, la maison, c'était un coup de cœur. De toute façon, c'est obligatoire. C'est quand même un engagement dans sa vie. On n'achète pas des maisons tous les jours, donc faut que ça corresponde à quelque chose quand même.
Est-ce que tu t'attendais à trouver ce village comme il l'est ?
On nous avait dit qu'il se passait plein de choses dans ce village. Mais depuis 20 ans qu'on est là, plus de 20 ans d'ailleurs, ça a bougé, les choses ont évolué. Quand on est arrivé, il y avait les apéros. Et ça, c'était un truc qui nous avait assez fascinés. Les apéros de quartier, et voilà. Et puis après, maintenant, il n'y en a plus, mais il y a d'autres choses qui sont apparues. Et puis c'est vrai que cette année, avec ce Barnave aux artistes qui est un espèce de truc qui t'embarque, tu ne sais pas trop où, mais avec Carotte, qui est une organisatrice géniale et qui arrive, je ne sais pas comment elle fait, à mobiliser tout un tas de monde qu'elle connaît et que ça crée dans le village une espèce de gaieté super.
Ton rapport à la peinture maintenant ?
La peinture, c'est le dessin, c'est la photo aussi. Ma grand-mère, elle nous faisait dessiner des tulipes, je dis ça toujours quand j'étais petit. Mais
pourquoi des tulipes ?
Parce que c'est ça qu'elle avait sur sa table du salon. Les tulipes perroquets en plus. Et c'est vrai qu'on n'en trouve plus trop des tulipes perroquets dans les fleuristes. Mais je me souviens de ça, voilà. Je devais avoir moins de 10 ans. Hein. Et puis voilà, puis dessiner, ça m'est resté. Et puis alors, il y a eu des périodes où c'était plus que d'autres, quoi. C'est normal. Et puis c'est vrai que depuis que je suis à la retraite, j'ai plus de temps. Alors, c'est pas que je peins plus, mais je peins plus tranquillement, je dirais. Parce que quand je bossais et qu'il y avait une espèce de besoin presque vital de prendre des grandes toiles, comme celle-là d'ailleurs, où j'avais un tout petit atelier et dans une cave et où je pouvais pas faire des. Mais j'avais envie de faire des grands trucs et du coup, ça tenait pas, donc j'étais obligé de faire en deux moitiés. Et c'était un vrai, un besoin.
Qui te procurait quoi ?
Qu'il fallait assouvir. Besoin de gestes, de couleurs, pas forcément de répondre à un sujet, mais de mettre quelque chose, sur une surface, des formes, des couleurs. Après le sujet, je dirais que c'était relativement secondaire.
Est-ce que c'est lié au fait que tu faisais un boulot dans un endroit qui était pas coloré, hyper oppressant ?
Ah non, je crois pas, parce que j'adorais mon boulot. D'ailleurs, quand j'ai arrêté, ça a été difficile parce que j'aurais bien continué.
Tu faisais quoi ?
J'étais chimiste, je bossais dans un labo, je faisais de l'analyse de résidus de pesticides dans les aliments, donc voilà, c'était passionnant et complètement différent de la peinture, rien à voir, c'est deux mondes. Non, c'était pas parce que je c'était pas quelque chose, la peinture, quelque chose pour contrebalancer de mon travail, non, pas du tout. Non, c'était autre chose, un besoin d'une autre nature, d'arriver à dire quelque chose par la peinture, par le dessin.
Et alors, qu'est-ce que tu veux dire?
Oula. Je sais pas si je veux vraiment dire quelque chose plus que d'arriver à, d'une façon générale, peut-être une façon de voir le monde. Je pense qu'effectivement, depuis quand même pas mal de dizaines d'années, je vois beaucoup d'expositions, beaucoup de peintres, beaucoup de sculpteurs, dans des musées ou à Barnave. Et je vois que les yeux des autres sont parfois tellement différents des miens, mais tellement passionnants aussi, que voilà, je pense que c'est assez extraordinaire de s'apercevoir comment des personnes différentes arrivent à voir la même chose de façon complètement différente. Et je pense que, du coup, je crois que moi, pas toujours, mais au moins de temps en temps, sur un tableau, je me dis, tiens, c'est marrant de vouloir transcrire ça, cette idée, ce paysage, ce sentiment, parce que je sais que de toute façon, il n'y en a pas un autre qui fera pareil que moi.
Et même j'allais dire, même chacun de tes tableaux a un peu un caractère unique. On pourrait penser que c'est pas toujours la même personne qui peint.
Ouais, c'est sûr, on me le dit souvent, ça. Et alors,
comment tu l'expliques ?
Alors, je l'explique parce que j'ai bien envie de pas me cantonner dans un style, mais aussi parce que j'ai jamais fait d'études artistiques et que du coup, j'ai peut-être jamais trouvé vraiment le chemin profond qui me permettrait d'aller de plus en plus loin. Et donc, du coup, ben, je papillonne. Je papillonne en quelque sorte.
Ce serait un manque pour toi ?
De ne pas avoir fait d'études ? On aurait pu faire tellement de choses différentes dans sa vie que de toute façon, il faut faire des choix. Mais peut-être qu'effectivement, j'aurais pu faire ça. Mais je me dis parfois aussi que j'aurais pu faire de la musique. Et ça, c'est aussi un regret. Parfois, je me dis, mais pourquoi mes parents ne m'ont pas mis dans un conservatoire ? Alors que maintenant, je vois que c'est tellement simple. Notre fille, elle a fait ce conservatoire et maintenant elle est musicienne, même si elle est géologue aussi, elle n'empêche qu'elle est musicienne. Et alors que moi, j'essaye péniblement de chanter dans des chorales, mais je ne suis pas musicien.
C'est encore un art, la musique, comme peut l'être la peinture. Donc, qu'est-ce que tu dirais de l'art pour toi ? Quelle importance ça a ?
Ah, ben, c'est fondamental. Enfin, si on pouvait ne vivre que d'art. Ça, je pense que voilà, que là, ça remplit la vie complètement. Finalement, l'art, c'est dire ce qu'on, la communication, dire ce qu'on voit, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on entend, et voilà, le retranscrire à travers ses propres neurones et son propre vécu. Et je pense que l'homme, en gros, il est fait pour ça, quoi.
Est-ce que tu as mis du temps à exposer ou est-ce que pour toi c'était clair qu'il fallait montrer ton travail ?
Ah non, c'était pas. J'y avais jamais pensé. Et en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Et c'est une fois un ami, il m'a fait en fait une commande, entre guillemets. Il m'a demandé une grande toile assez immense pour mettre dans son salon à Paris. Et j'avais jamais peint de grande toile, plus de 2 mètres, je veux dire. Et du coup, il m'a dit chiche, et puis voilà. Et pendant des mois, je ne savais pas quoi faire, parce que même si j'étais capable de dessiner des petits trucs, je n'avais jamais fait ça. Et puis un jour, et c'est drôle parce que ça rejoint la musique, j'ai entendu un concert, le concerto pour 2 pianos de Poulenc, et ça a fait tilt. Et du coup, et ben, j'ai peint avec cette idée dans la tête, et ça a fonctionné. Et bah, c'est le premier grand tableau que j'ai fait. Après, il y en a eu d'autres. Et il est toujours chez lui. il a voyagé. Maintenant, il est quelque part en Aquitaine, mais il le suit.
Tu parlais tout à l'heure de paysages. Alors oui, tu peins des paysages, par exemple. On va commencer par ça. Est-ce que c'est des paysages que tu as vus ou c'est des paysages que tu imagines ?
En général, que j'ai vu au départ. Après, ça part dans une réalité et puis ça finit dans l'imaginaire ou dans le plus ou moins abstrait. Il y a, il y en a sans doute un ou deux, enfin j'en pense au moins à un ou qui est complètement imaginaire, mais d'une façon générale, c'est plutôt, ça part plutôt de, d'une réalité.
Et tu nous parlais donc de musique, est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autres influences qui viennent pour t'aider justement à développer un tableau par exemple?
Non, pas forcément, non, non.
Alors quelles émotions tu convoques?
Là, c'est tellement varié, je pense que c'est à l'image de, des différentes formes d'expression que je peux avoir dans, dans le dessin et dans la peinture, c'est que des émotions, donc bah, la première émotion justement c'est quand j'ai une espèce de besoin très pressant de peindre, mais qui est au-delà de qu'est-ce que ça va être, en fait c'est juste le besoin de mettre de la couleur sur une toile, voilà. Et ça, c'est une émotion en soi, toute bête, toute basique, et des couleurs, et puis que ça vient tout seul, et puis je laisse venir, et là, quand ça vient tout seul, c'est génial. Après, quelquefois, c'est plus dur. En général, quand on, plus le cadre est serré, et plus c'est difficile. Parce qu'on se contraint, on réfléchit trop. L'idéal, c'est de ne pas réfléchir, quoi, de prendre un pinceau, une toile et puis d'y aller. Quoi.
Donc, c'est-à-dire, sous la contrainte, ce serait quoi, une commande pressante, une date?
De moi? Oui, bien souvent, oui. Oui, oui, parce que je me dis, puisque j'ai décidé de peindre, il faut y aller, donc je m'oblige un peu parfois de le faire, mais ça ne marche pas toujours. Ce serait trop facile.
Ce qui est étonnant, puisque tu n'en as pas besoin pour vivre, par exemple.
Non, pas du tout, mais c'est justement le problème. Peut-être que si j'en avais absolument besoin, d'une certaine façon, ça me pousserait au cul, quoi. Tandis que là, non. Là, c'est juste qu'il faut que j'oublie d'une certaine façon, que j'oublie et que je le laisse venir. Et c'est ça qui est dur.
Est-ce que t'as raté? Tu jettes beaucoup?
Non. Parfois, je modifie, même plusieurs années après, je fais des modifications. Quelquefois, je regrette d'avoir recouvert complètement un tableau. Parce que je me dis, après tout, il n'y a pas de raté. C'est pas la notion de raté, ça n'existe pas, non.
C'est hyper intéressant. Ça t'a déjà recouvert un tableau, comme certains les brûlent ou les jettent?
Ouais. J'ai jamais jeté, brûlé, mais recouvert, oui.
Pourquoi?
Parce que à un moment, je me dis non, ça va pas, c'est nul, ça ne sert à rien. Mais c'est bête, c'est une démarche qui à ce moment-là, on jette tout, quoi. Si on part là-dessus, et parce qu'on peut pas prétendre que ça c'est mieux que ça. C'est trop prétentieux, c'est orgueilleux, c'est un orgueil suprême de détruire un tableau.
C'est très particulier parce que c'est quand même ta création en l'occurrence, puisqu'on parle de toi, et donc c'est toi qui décides de l'exposer, de la montrer à des gens, mais tout d'un coup pas celui-là. Tu n'es que ton propre juge pendant très longtemps avant de savoir si c'est réellement mauvais.
Non, mais il n'y a pas il n'y a pas de notion de valeur, on ne peut pas dire ça. Il y a des tableaux que j'apprécie plus ou moins. D'ailleurs, ça peut changer selon les périodes. Et je vois bien que la réaction des gens qui voient mes tableaux, elle est parfois extrêmement inattendue. Quelquefois, j'ai des trucs même que je vends et que jamais j'aurais imaginé que ça puisse avoir une valeur marchande. Voilà, donc... Depuis, je me dis, mais c'est pas. Voilà, il y a le geste de peindre, et il y a le. Peut-être qu'on peut considérer le geste de montrer, mais après, ça t'appartient plus. C'est. Voilà, et détruire un truc, à la limite, parce qu'il y en a trop, tu sais plus où les foutre, mais sinon, non.
Il faut les donner.
Oui,
tu offres?
Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, absolument. Oui. Et j'échange aussi. Bah oui. Parce que c'est vrai que dans la maison, il y en a, ben je les, il y en a partout sur les murs, mais pas que des miens. Et puis je les fais tourner parce que j'aime bien, pour voir des tableaux, il faut qu'ils changent de place. C'est ça, voilà. Dans une maison, tu vois des tableaux accrochés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais tu les vois plus, quoi. Donc tous les plusieurs même fois par an, au moins 2-3 fois par an, on change les tableaux de place. On en met un nouveau, donc du coup ça fait bouger, et puis etc.
Et donc tu ne te fatigues pas de te voir?
Si c'est ça, je les enlève. S'il y en a un que je veux plus voir, je l'enlève. Et voilà. Ou bien je le mets ailleurs, ou je le donne, ou si quelqu'un l'aime. Non, je crois que non. Enfin, il y a des tableaux que je ne mets pas au mur parce que je n'ai pas envie de les voir. Mais c'est pas... Non. Je ne peux pas dire ça parce qu'une fois que j'ai fait un truc, quand j'ai dit... quand je lève la main, je dis c'est fini, c'est parce que j'ai un plaisir, je ressens un plaisir à le regarder. Donc le plaisir, il est pérenne, a priori.
On peut l'espérer, ouais. Parlons technique, François. C'est quoi ta technique de travail?
Il y en a plusieurs. Il y a d'abord il y a la peinture proprement dite. Alors la peinture, soit à l'acrylique, surtout à l'acrylique, avec de la couleur, évidemment. Ça peut être de la peinture, parce que l'encre de Chine sur des grandes toiles, je considère que c'est de la peinture, donc c'est du noir et blanc. Et il y a de l'huile aussi, parce que j'aime bien, ça complètement différent comme matière, et peindre à l'huile, c'est aussi c'est un autre plaisir, mais le problème c'est que ça pue un peu, mais voilà, donc quand on peut faire ça dehors, c'est mieux. Voilà, il y a ça, donc c'est ce côté peinture, et il y a le côté dessin. Alors le dessin, je vais parler du modèle vivant, parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années, et de régulièrement, toutes les semaines, hein.
Tu fais pas mal de nus?
Voilà, les modèles vivants, voilà, des nus, donc j'en expose d'ailleurs, et là ça peut être pareil, l'encre de Chine, le lavis, le crayon, le fusain, la peinture acrylique, etc. Voilà.
Qu'est-ce que ces différentes techniques amènent?
C'est tellement des gestes différents, quoi. Quand on a un bout de fusain dans la main... on peut presque fermer les yeux et puis laisser la main se balader. D'un point de vue purement technique, c'est vrai que quand on fait intervenir de l'eau pour diluer un médium comme l'acrylique ou le même langue de Chine, donc il faut faire plus attention. Et puis on a des instruments différents. C'est pas les doigts en général, on peut, hein, mais il y en a qui le font. Mais en général, on a un pinceau ou un bout de bois taillé qu'on peut appeler un calame pour l'encre. Voilà, donc c'est du coup ça change les gestes. Quoi. Ça change les gestes. Quoi. Il y a une sorte d'attention différente. Quoi. Quand on travaille en couleur, pareil, on a plusieurs couleurs qu'on mélange, il y a le geste de les faire sortir des tubes ou des boîtes, et tout ça, ça fait partie aussi de la gestuelle de la peinture.
Et tu parlais tout à l'heure de ton travail de chimiste, le mélange des couleurs, tout ça, est-ce que ça se rapproche de quelque part d'un travail un peu d'ingénieur? Enfin, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est mental aussi ou intellectuel comme travail?
Non, c'est complètement différent. Parce que le métier de scientifique, c'est extrêmement rigoureux, codé. On suit des protocoles très très précis. Et voilà, on est dans le scientifique. Au niveau de l'art artistique, je dirais que c'est presque l'opposé, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le sensible, dans l'intuition. Il faut être extrêmement concentré, mais c'est pas du tout le même genre de concentration. C'est une espèce de concentration déconcentrée, je dirais. Alors que quand on fait du scientifique, là on peut pas être déconcentré, il faut qu'on sache toujours ce qu'on fait, quoi. Parce que quand on dessine, quelquefois, on regarde le lendemain, on se dit, mais c'est, ça vient d'où, ça? Ouais, ouais. C'est, voilà.
Il faut que tu sois dans quel état pour créer?
Faut pas être inquiet, faut pas être stressé, faut être plutôt tranquille. Voilà, c'est... Et puis il y a aussi une forme de, comment dire, d'habitude, hein, quand on va dans un atelier de modèles vivants chaque semaine, c'est une routine. Donc alors quelquefois on n'a pas envie, puis quelquefois on a très envie. Et ben quand on n'a pas envie, on y va quand même parce qu'on se dit que ben, qu'on va quand même y trouver quelque chose. Puis quelquefois ça fonctionne pas bien, mais et puis ça fonctionne mieux la prochaine fois. Mais ouais, c'est différent. Alors le modèle vivant, c'est différent parce que justement ça fait intervenir les pauses. Souvent dans ce genre d'atelier, elles sont extrêmement brèves, de 3 à 8-10 minutes au grand maximum.
C'est-à-dire, explique-nous. Bah, personne vient.
Le modèle pose 3 minutes ou... Non, il y a plusieurs pauses. Elle change de pause. C'est-à-dire qu'on a 3 minutes pour la dessiner. Ou 5 minutes ou 8 minutes, enfin, selon ce qu'on décide au départ. Voilà, et donc après, selon évidemment la durée de la pause, on n'aborde pas le modèle de la même façon. Et d'ailleurs, quand c'est rapide, c'est beaucoup plus simple d'une certaine façon parce que on réfléchit, on n'a pas le temps de réfléchir et ça, c'est le gros piège de réfléchir et de là, on commence à partir en vrille. Il faut y aller.
Et en fait, la peinture, le dessin, c'est une question de spontanéité, de rapidité dans le geste.
En fait, c'est la main. C'est l'œil et la main. Ouais, c'est-à-dire, je pense qu'il y a d'autres peintres qui l'ont dit avant moi. C'est pas l'intellect. Ça peut être pour... Voilà, quand on fait une peinture un peu... Bah, on regarde un peu les constructions, l'équilibre et tout ça. Mais quand on fait un modèle vivant en 3 minutes, là, l'intellect, il n'existe même pas. Quoi. C'est juste l'œil... Et à toute vitesse, en plus, il faut éviter de. Idéalement, ça serait qu'on regarde et qu'on dessine sans regarder ce qu'on dessine. Et ben ça, j'y suis pas là, je sais pas faire. Mais ça serait génial. Ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle connexion entre l'œil et la main qu'il n'y ait pas besoin de regarder sa main pour suivre ce qu'on veut dessiner. Et c'est rare que ça arrive.
Et j'ai même l'impression que, parce que tu nous as parlé de photos aussi au début, que l'œil n'a pas vraiment besoin de regarder longtemps non plus.
Non, d'ailleurs, moi j'utilise beaucoup la photo avec l'idée d'une peinture. Enfin, je prends une photo et je peins avec la photo, même si je ne la reproduis pas, ou plusieurs photos. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai découvert l'année dernière que cette façon de faire ne date pas d'hier. Et alors, il y a eu depuis des siècles, je veux dire, les peintres ont utilisé, avant la photo, même la chambre obscure. C'est-à-dire, ça consiste à regarder les choses par un tout petit trou, à travers, par exemple, un quadrillage. Et reproduire ce quadrillage sur la toile. Donc c'est une photo, c'est une technique pour gagner du temps dans la construction. Après, il y a eu la projection à travers la chambre noire, donc projeter directement un objet ou un paysage sur une toile et dessiner. Après, il y a eu la photo au 19e siècle qui a permis, mais ça... Bizarrement, il y en a beaucoup qui l'ont caché parce qu'ils avaient un peu honte de, comme si c'était du copiage plus que. Et maintenant, j'ai l'impression que ça se libère et c'est maintenant les peintres ils revendiquent plus justement d'utiliser la photo. Et il y en a qui l'utilisent franchement, c'est-à-dire moi je sais plus le nom, mais j'ai vu une expo photo où il y avait carrément le peintre, il s'appliquait à dessiner les pixels d'une photo numérique. C'est-à-dire, il agrandissait tellement qu'on voyait les pixels, et il peignait les pixels. Alors après, il peignait, bon, peu importe ce qu'il peignait, mais il avait photographié des peintures classiques et peintes avec des pixels. C'était, voilà, c'était amusant. Mais donc maintenant, c'est plus un tabou. Disons qu'avant, ça l'était. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Une espèce de complexe.
On s'imagine que le peintre va comme ça, des heures et des heures durant, dans un champ avec son chevalet, par pluie, neige et vent, continue à peindre.
Il y en a. Les impressionnistes, ils ont quand même beaucoup fait ça. Mais il n'y a pas que. Il y a des impressionnistes qui ont aussi fait de la photo. C'est, voilà.
Tu les vends aujourd'hui, donc, tes tableaux ?
Éventuellement, oui, mais disons que je ne fais pas de forcing. Voilà. Mais en plus, comme les grands formats, disons que comme je suis pas, j'ai aucune cote ni rien, moi, je fais à la taille, donc j'ai une feuille Excel, hein, et je mets les dimensions dans ma feuille Excel, et il me calcule, voilà, un prix par rapport à un truc que j'ai plus ou moins déterminé par rapport à ce que j'ai vu sur les sites internet, et voilà. Donc du coup, les très grands formats, ça atteint des prix très grands. Alors je diminue, mais quand même, ça reste, voilà. Donc j'en vends pas beaucoup des très grands, mais ça m'arrive. Sinon, je vends des plus petits, ça m'arrive.
Est-ce que c'est justement une question que, voilà, que je pose un peu à tous les artistes, de comment est-ce qu'on arrive à fixer un prix sur du temps passé, combien de temps ça prend d'ailleurs, enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te pose question ?
Ben, je me pose pas de questions justement parce que j'ai la notion de temps, elle est, faut la sortir parce qu'il y a un truc que tu vas mettre des mois à faire. Et réellement, c'est-à-dire y penser pendant des heures et des semaines et des mois.
En rêver la nuit ?
Non, peut-être pas. Non. Mais disons presque, enfin, symboliquement, oui. Et alors que d'autres trucs, tu vas torcher ça en deux heures et ça va être super. Et puis tu reviendras pas dessus et ça aura la même dimension. Et ça va être là, voilà. Et donc la notion de temps peut pas intervenir. Donc du coup, moi, je fais intervenir que la dimension, que la taille de l'objet pour faire un catalogue de vente ou un truc comme ça.
Et sa quantité de matière ?
Non, ça rentre pas non plus en ligne de compte. Alors après, il y a une petite cote affective, c'est-à-dire il y en a, je vais rajouter un peu, il y en a, je vais diminuer un peu. Mais non, c'est vraiment les dimensions parce que je sais pas faire autrement, parce que j'ai pas de façon de faire. Alors j'essaye d'être raisonnable, pas pour vendre à tout prix. Mais pour que ça ait, voilà, puis je me dis que je m'inclus dans une communauté d'artistes amateurs et j'essaye d'être à peu près équilibré par rapport à ce milieu, voilà.
On peut terminer peut-être avec justement les endroits où on peut te trouver, comment est-ce que tu te places, est-ce que tu es dans différentes expos, est-ce qu'on peut te suivre avec un site internet, je sais pas.
Bien sûr, oui, donc j'ai un site internet et donc actuellement j'expose tout le mois de juin dans un café associatif à Valence, le Cause Toujours. Très peu de choses, d'ailleurs des modèles vivants et une grande toile à l'encre de Chine qui représente et qui a un côté un peu abstrait aussi, la montagne de la Cervelle dans le Diois, bien connue.
Et donc on peut te contacter si on voulait te faire exposer quelque part
Oui, bah, j'ai mon site, donc le nom de mon site. Donc c'est François Bordet attaché jimdofree.com. Voilà. Donc là j'ai à peu près tout ce que j'ai fabriqué plus ou moins avec c'est un peu classé par expo, par année, pas vraiment rigoureusement, mais disons que on s'y retrouve à peu près, quoi.
Est-ce que tu veux une parole libre avant qu'on se quitte?
Je suis super content de cette journée, de ces deux journées de Barnave aux artistes, parce que je retrouve qu'il y a vraiment une ambiance, une espèce de joie dans le village que j'avais pas vue depuis longtemps. Voilà, vraiment. Et merci à ceux qui ont participé à l'organisation.
Et merci François pour cet entretien.
Merci. Thank you.
Mmh.